France Inter, il est 19h. Le journal avec vous, Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir. Au sommaire ce soir, le Brexit, une très mince lueur d'espoir. Après la rencontre Macron-Johnson à l'Elysée, je veux un accord, dit le Britannique, c'est possible, mais... répond le français, et le mais est de taille, vous verrez. Quand une mauvaise géolocalisation crée des erreurs judiciaires, plus de 10 000 décisions de justice doivent être revues au Danemark. Des téléphones pourraient ne pas avoir été correctement localisés dans une série d'enquêtes. La rentrée de Yannick Jadot, 3 mois après son très beau résultat aux européennes, l'homme fort chez les écolos est appelé à la modestie par le chef de son parti. Il répond au micro de Laurence Perron. Les taux d'intérêt très bas ne font pas les affaires des banques. BNP Paribas va se séparer de 500 personnes en France dans une filiale de services financiers. Les supermarchés font-ils des marges abusives sur les fruits et légumes bio? Accusation des consommateurs du FC Que Choisir, la grande distribution dément. Reportage à Toulouse. Le drapeau époque apartheid ne doit plus être brandi en Afrique du Sud. Décision de la haute cour de Johannesburg. Les symboles doivent disparaître avec le passé. À quelques jours de la rentrée scolaire ou du retour au bureau, quel est notre rapport à l'orthographe? Bonsoir Éric Delvaux.
Bonsoir Bruno.
C'est le thème du téléphone sonne ce soir.
Oui, et vous avez raison de préciser que l'orthographe, c'est important non seulement à l'école, mais évidemment dans la plupart des métiers, sous peine de discrimination par l'orthographe. On en parle sans faute, bien sûr, après ce journal.
Mais oui, orthographe avec deux F, 01 45 24 7000 pour appeler le standard. À tout à l'heure, avant cela, nous irons dans un magasin emblématique de Paris. Les amateurs de photos argentiques voient disparaître un de leurs repères.
France Inter.
Et commençons avec cette histoire qui illustre le poids pris par la géolocalisation dans nos sociétés. Au Danemark, plus de 10 000 décisions de justice vont devoir être revues à cause d'erreurs dans la localisation de téléphones mobiles. C'est le New York Times qui a révélé cette histoire. Racontez-nous, Juliette Jay.
Oui, deux erreurs principales ont été détectées. La première concerne le système informatique qui transmet les données des opérateurs téléphoniques à la police. Durant la conversion, des informations ont été perdues, ce qui a rendu la géolocalisation moins précise. Le deuxième problème, c'est que des téléphones ont été connectés aux mauvaises antennes relais. Des innocents ont donc pu être associés à des scènes de crime par erreur. Pour le ministre de la Justice danois, cette découverte mine la confiance dans le système juridique. Lundi, le parquet danois a demandé l'arrêt de l'utilisation de telles données dans les affaires criminelles. Pendant 2 mois, elles ne pourront plus servir à justifier une arrestation. L'argument du procureur, on ne peut pas laisser de fausses informations envoyer des gens en prison. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur de possibles erreurs dans d'autres pays. Mais pour Caroline Norman, qui préside l'Institut de droit pénal du barreau danois, ce problème pourrait être international. La police utilise en effet dans le monde entier les données de géolocalisation de compagnies téléphoniques. Cette erreur remet en cause l'utilisation des positions GPS comme preuve, rappelant au juge que même la technologie est faillible.
La place des nouvelles technologies dans le fonctionnement de la justice, dans les événements politiques aussi. L'Indonésie reconnaît ce soir bloquer Internet dans sa province de Papouasie où des émeutes font rage. La raison officiellement avancée, c'est que la propagation de contenus racistes pourrait alimenter les troubles. L'Amazonie brûle. Le nombre de feux dans la plus grande forêt tropicale du monde a quasiment doublé cette année par rapport à l'année dernière, plus 83%. Nous n'avons pas les moyens de lutter, dit le président Bolsonaro, vivement critiqué par les organisations environnementales sur ce sujet. Pour les ONG, la déforestation est favorisée par la politique de Bolsonaro et favorise les incendies. À propos du Brexit, au bout du tunnel, sous la Manche, s'il y a de la lumière, elle est faible. Le Premier ministre britannique était à Paris aujourd'hui. Il est arrivé dans la cour de l'Elysée juste après 13h, deux micros installés. Boris Johnson, qui avait rencontré Angela Merkel hier, entretient l'espoir. Va-t-on vers un Brexit dur ou un accord? Est-il possible avant le 31 octobre?
Je veux que ce soit très clair, pour vous Emmanuel, comme pour le peuple français. Bien sûr, je veux un accord. Et je crois qu'on peut arriver à un accord, un bon accord. J'étais particulièrement encouragé par notre conversation d'hier soir à Berlin avec notre amie commune et je sais qu'avec suffisamment d'énergie, de créativité et d'assiduité, on peut trouver une manière d'avancer.
On peut avancer, alors est-ce que c'est clair pour Emmanuel, la réponse du président de la République?
On m'a toujours dépeint comme le plus dur de la bande. Mais parce que moi, j'ai toujours dit très clairement, il y a un choix qui a été fait. Maintenant, je vais être ici très clair, dans le mois qui vient... on ne va pas trouver un nouvel accord de retrait qui soit loin des bases. S'il y a des choses qui peuvent être adaptées et sont conformes aux deux objectifs, stabilité en Irlande, intégrité du marché unique, on doit les trouver dans le mois qui vient. Sinon, ça veut dire que le problème est plus profond, que c'est un problème politique britannique. Et à ce moment-là, c'est un choix politique que le Premier ministre aura à prendre. C'est pas à nous de le faire.
Propos sélectionné par Éric Biégala. Bonsoir, Élise Delève.
Bonsoir.
Alors, au-delà de ces mots, vous qui étiez à l'Élysée, que retient-on de cette rencontre?
On retient d'abord une poignée de main chaleureuse, les pieds sur la table de Boris Johnson en guise de plaisanterie au moment de la photo, et la tentative d'humour d'Emmanuel Macron. Ma proposition sur le Brexit occupe vos jours et vos nuits. Le ton se durcit ensuite quand les deux hommes évoquent le backstop, ce filet de sécurité créé pour éviter le retour d'une frontière entre les deux Irlandes. Un accord ne peut pas être négocié en un mois, affirme Emmanuel Macron, alors que Boris Johnson l'assure, nous avons assez de temps pour trouver une solution pour la frontière. Une possibilité évoquée hier par Angela Merkel lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique. Ce que la chancelière allemande a voulu dire, c'est qu'il faut de la visibilité dans 30 jours, se permet Emmanuel Macron. Une explication de texte qui ne plaît visiblement pas à Boris Johnson. Si j'ai bien compris et j'étais à côté d'elle, c'est que si une solution est négociable en 2 ans, elle l'est aussi en 30 jours. Boris Johnson confond ici volontairement l'accord de retrait et la future relation commerciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui n'a pas encore commencé. Elle débutera une fois que le Brexit aura lieu. En attendant, on ne touche pas fondamentalement au backstop, soutient Emmanuel Macron, le plus dur de la bande. Boris Johnson saura pourquoi.
En tout cas, Angela Merkel redonne une date. Déclaration de la chancelière aujourd'hui, un accord reste possible jusqu'au 31 octobre. Après-demain, le G7 à Biarritz. Les militants écologistes réunis au sein du réseau Action Climat menacent de boycotter le sommet. Ces organisations estiment ou estimaient, vous allez comprendre pourquoi, que l'Élysée veut les tenir à l'écart et globalement tenir la société civile à l'écart du sommet. Et bien, selon nos confrères de France Info, il y a quelques minutes, elle pourrait obtenir plus d'accréditation qu'initialement prévu. Dans le cadre de ce G7, l'épouse de Carlos Ghosn demande au président Macron d'intervenir auprès du premier ministre japonais pour que les droits de l'ancien patron de Renault soient respectés. Il est en liberté sous caution au Japon, dans des conditions cruelles et inhabituelles pour Madame Ghosn. Réponse de l'Élysée, il n'appartient pas au président de s'immiscer dans un cas judiciaire. Pour reléguer dans les livres d'histoire le passé le plus sombre, il faut aussi tenir compte des symboles. En Afrique du Sud, il est désormais interdit de brandir le drapeau époque apartheid. Décision de la Haute Cour, Noé Auchet-Baudin.
Ce drapeau est raciste et discriminatoire, il est le symbole de l'humiliation et de l'oppression. Les mots du juge de la Haute Cour de Johannesburg sont sans appel. Le drapeau qui flottait au-dessus de l'Afrique du Sud de 1928 à 1994 n'a plus lieu d'être et sera désormais interdit. En effet, après l'élection de Nelson Mandela et l'avènement de la démocratie arc-en-ciel, la relique avait été tolérée, une façon de réconcilier un peuple qui n'avait jamais appris à vivre ensemble. Mais depuis, les temps ont bien changé en Afrique du Sud, société très divisée racialement et gangrénée par la violence. Pendant plusieurs années, l'étendard orange, blanc et bleu avait été brandi lors de plusieurs manifestations, soulevant des polémiques sur la faculté d'évoluer de la société sud-africaine. Le drapeau de l'apartheid n'est pas seulement un objet appartenant à l'histoire, il véhicule aussi le passé politique de l'Afrique du Sud et est donc implicitement raciste aux yeux de la justice, à l'image du drapeau confédéré aux États-Unis. Pour la fondation Nelson Mandela, qui a mené le combat contre ce drapeau, c'est une petite victoire. La victoire sera totale lorsque tous les Sud-Africains seront capables de vivre ensemble, a déclaré son président. Johannesburg, Noé Auchet-Baudin, France Inter.
À quoi ressemble l'ancien et l'actuel drapeau sud-africain? Noé l'a un peu décrit, l'ancien, mais vous pouvez aller sur franceinter.fr pour revoir ces deux drapeaux. Matteo Salvini redouterait-il de perdre la main? Il ouvre la porte à une nouvelle coalition avec les 5 étoiles dont il vient de divorcer en Italie. Déclaration aujourd'hui du leader d'extrême droite. Si Luigi Di Maio veut relancer le gouvernement, nous sommes prêts. Di Maio, vice-premier ministre 5 étoiles dans le gouvernement démissionnaire, courtisé depuis le début de la semaine par les démocrates de gauche. Après avoir consulté les chefs de parti aujourd'hui, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, doit s'exprimer dans moins d'une heure.
France Inter, Bruno Duvic.
Les taux d'intérêt extrêmement bas en ce moment font les affaires de tous les emprunteurs, des particuliers qui veulent acheter un logement, à l'État qui s'endette à bon compte, en tout cas pour l'instant. Cela fait moins les affaires des banques. Bonsoir Frédéric Seyss.
Bonsoir Bruno.
BNP Paribas envisage de supprimer quelques 500 postes en France dans une filiale de services financiers. Et il y a un lien direct avec ces taux proches de zéro, Frédéric.
Oui, car les banques ne parviennent plus à dégager les mêmes marges. C'est le cas sur les prêts aux particuliers que vous évoquiez, Bruno, avec des taux d'intérêt très faibles. Ces marges sont compressées. immobilier, mais c'est aussi le cas pour les placements financiers. Un taux d'intérêt proche de zéro, cela veut dire que les placements rémunérateurs sont rares. Résultat, les intermédiaires souffrent, comme ici, cette filiale de BNP Paribas. Ajoutez à cela la concurrence des banques en ligne qui grignotent des parts de marché. Vous comprenez pourquoi le secteur réduit ses effectifs partout en Europe. Moins 3000 postes chez Barclays, moins 4000 chez HSBC et moins 18000 à la Deutsche Bank. Alors il faut tout de même relativiser. Pour le secteur bancaire, ce n'est pas la morosité absolue, c'est simplement un secteur qui était très profitable et qui l'est un peu moins. Le groupe BNP Paribas dans son ensemble a d'ailleurs réalisé plus de 7 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier en légère diminution. Cela dit, cette tendance va durer. Les acteurs du marché s'attendent à une nouvelle baisse des taux décidée en septembre par la Banque Centrale Européenne.
Les représentants de la grande distribution sont en colère après l'UFC. Que choisir ? L'association de consommateurs accuse les grandes surfaces de pratiquer des marges abusives sur les fruits et légumes bio. Marge 75% plus élevée que sur les fruits et légumes traditionnels. Selon UFC, c'est sur les tomates, les pommes et les pommes de terre bio que les hyper et super iraient le plus fort. Étude pas sérieuse, aucun fondement scientifique, répond la grande distribution. Le débat sur le terrain à Toulouse, vous avez recueilli quelques échos, Alain Gastal.
Si le responsable d'une grande chaîne d'hypermarché reconnaît en off qu'il ne fait pas de discount sur le bio, globalement la grande distribution conteste l'enquête de l'UFC. Elle dit attendre les résultats d'une étude de l'Observatoire des prix et des marges. Mais pour sa part, Marie, qui est végétarienne et qui a un budget serré, n'achète jamais ses fruits et légumes bio dans les grandes surfaces. La raison ? Trop cher.
Je les achète surtout bio, mais pour ceux qui sont très chers, je vais au marché, j'ai pris des figues. Le bio en grande surface, c'est beaucoup plus cher que dans les biocoop, ou même pour ce qui est des légumes secs, c'est moins cher au bio en vrac, quoi. Hein. Le but des grandes surfaces, c'est de faire de la marge, quoi. Et ils exploitent le filon clients qui veulent du biologique et qui sont prêts à mettre le prix, quoi.
Et si la grande distribution se pique aussi parfois de jouer les circuits courts, localement de nombreux producteurs rechignent à faire affaire avec elle. Thomas est maraîcher bio au pied des Pyrénées.
Déjà, par principe, beaucoup de producteurs bio n'aiment pas vendre à la grande distribution. Quand on vend à des magasins, on choisit des magasins spécialisés, avec qui on peut avoir des relations de confiance et défendre une certaine bio, je dirais, une bio de proximité, une bio locale.
Résultat, les magasins spécialisés vendent encore deux fois plus de fruits et légumes bio que les grandes surfaces. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Les écolos ont-ils ressorti leur baguette magique, celle qui transforme les succès électoraux en petites guéguerres internes? Université d'été des Verts, depuis aujourd'hui à Toulouse. On reste sur le très beau résultat d'Yannick Jadot aux européennes en mai, 13,5% des voix, troisième place. Jadot, parfois taxé d'avoir pris le chou bio, certes, mais pas modeste. Alors le patron du parti, David Cormand, a ouvert ses universités d'été avec un message clair et net.
Ne laissons pas la tyrannie des égos détruire le fruit de notre travail commun. Aucune personnalité ne peut réussir seule. Aucune étoile filante ne peut se prévaloir de notre succès commun pour écrire une trajectoire solitaire. Cet ensemble que nous sommes une force qui compte.
Voilà qui est envoyé. Yannick Jadot, également critiqué pour son positionnement ni droite ni gauche, a dû apprécier. Il est arrivé tout à l'heure à Toulouse, Laurence Perron.
Pas une arrivée de star pour Yannick Jadot, mais il faut tout de même suivre une nuée de micros et d'objectifs pour approcher le champion de la campagne européenne.
Tourne-toi, voilà. Les mains dans les poches, s'il te plaît.
Jean et chemise blanche, une mise modeste, pour celui qui n'a pu quand même que se sentir un peu visé lorsque ce matin, le secrétaire national du mouvement, David Cormand, a prévenu les siens qu'il fallait rester modeste et se méfier des étoiles filantes.
Pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Pas du tout, mais Yannick Jadot a tout de même fourni sa réponse.
Ah mais vous savez, moi c'est le mois d'août, hein, c'est le mois des étoiles filantes. Quand il y a des étoiles filantes, on fait toujours des vœux. Et moi mon vœu, c'est le succès des écologistes pour les Français.
Autre sujet de discussion ici, les Verts doivent-ils s'affirmer résolument de gauche ou considérer que le plus sûr pour rassembler, c'est un ni droite ni gauche et l'écologie reconnaîtra les siens.
L'écologie n'a plus à se positionner par rapport au clivage du siècle passé. C'est aux autres à se positionner par rapport aux grands enjeux de l'écologie. C'est ça le sujet. Ça ne suffit pas de sortir sa carte politique. Moi, je me sens de gauche, mais ça ne suffit pas de sortir sa carte de gauche pour résoudre les grands sujets du moment.
Le débat est en réalité assez artificiel. C'est inscrit ici sur quasiment tous les murs. Entre, je cite, la barbarie libérale et l'écologie, il faut choisir son camp.
Voilà pour ce reportage de Laurence Perron aux universités d'été des Verts à Toulouse. Un mot de sport en tennis, tirage au sort de l'US Open. Et dans le tableau féminin, il y aura un choc dès le premier tour. Serena Williams face à Maria Sharapova. À Paris, un commerce emblématique va fermer ses portes. Et l'histoire intéresse bien au-delà du périphérique. Tous les amoureux de la photo à l'ancienne. Cette boutique du quartier des Gobelins ne vend que des appareils photo argentique. Dernier tour en magasin, Touknir Lanto.
La boutique de Minuette est une caverne d'Ali Baba pour photographes. À l'intérieur, près d'un millier d'appareils photo à pellicule et d'accessoires à peine rangés. Des raretés pour certains.
C'est un Kodak, un appareil à souffler. Ça doit dater des années 40-50.
Si Minuette renonce à vendre ce matériel ancien, c'est par choix personnel. Le numérique ne l'a pas concurrencé. Elle ne manque pas de clients.
Il y a beaucoup de clients qui reviennent à l'argentique. Parce que c'est plus costaud, c'est moins cher. Notamment beaucoup de jeunes. Soit ceux qui ont déjà fait de l'argentique, qui ont aimé ça. Soit les jeunes qui n'ont jamais touché à l'argentique, qui redécouvrent par leurs parents ce que c'est faire une photo.
Le 72 avenue des Gobelins est une adresse connue des passionnés de photos.
Ah, c'est un ami qui m'a recommandé à vous.
Yannick arrive tout juste de Corrèze.
Vous n'avez pas de trépied non plus ou de
rien, trépied, j'en fait. Ai.
Je peux regarder ?
Oui.
Le numérique, il n'en veut pas.
J'ai commencé à collectionner, à acheter des appareils il y a environ 2 ans. L'argentique, pour moi, c'est un passe-temps. J'étais à la recherche d'accessoires, objectifs, un peu plus difficiles à trouver. Savoir que ce magasin va fermer, quels sont vos sentiments ? Je suis assez déçu. J'aurais aimé y revenir pour mes autres appareils, éventuellement trouver du matériel que je ne trouverai pas ailleurs.
Yannick devra maintenant trouver son matériel sur Internet. Les produits de la boutique seront quant à eux vendus aux enchères dans moins d'un mois.
Et après la photo, les livres, c'est aujourd'hui que sort le tome 6 de la saga Millennium pour les amateurs, la fille qui devait mourir. Les fans du Canal Plus Grande Époque se souviennent des nuls et de leur personnage Régis, pas fut-fut. Eh bien, dans la série, Régis est un on. Régis fait son jogging sur l'autoroute. C'est une histoire vraie racontée par nos confrères de France Bleu Berry. Un homme intercepté par les gendarmes de l'Indre hier soir en plein footing sur la bande d'arrêt d'urgence en sens inverse de la circulation sur l'autoroute A20. Routier, il avait garé son camion à quelques encablures. Il a écopé d'une amende. Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Bruno.
La météo, quelques orages, sinon du beau temps demain.
Oui, c'est effectivement le programme météo de la journée de demain, mais aussi de ce week-end. Un anticyclone des Açores va protéger une grande partie du pays et nous assurer un bon ensoleillement pour les 3 jours à venir. En revanche, le temps restera instable et orageux dans le sud-est, notamment sur le relief des Alpes du Sud, sans oublier la montagne Corse. Attention à ces orages, vont encore apporter localement d'importants cumuls de pluie entre les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes.
Et température estivale ?
Avec des maximales, demain après-midi, comprises entre 25 et 34 degrés du nord au sud. Ce week-end, le mercure va encore progresser. La moyenne des maximales va dépasser la barre des 30 degrés aussi bien dans le nord que dans le sud. On prévoit par exemple dimanche un maximum de 35 degrés à Bordeaux.
Merci Jean-Pierre Hameau, 19h18 sur France Inter.